Chers frères et sœurs, en vous souhaitant d'abord la bienvenue dans notre cathédrale pour ce grand jour de l'ordination de Maxime, Vianney et Vincent-Marie. Permettez-moi de saluer fraternellement d'abord Monseigneur Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes et Lourdes, qui connaît bien Vincent-Marie et sa famille. Et puis aussi tous les prêtres présents de notre diocèse d'abord, mais aussi de bien d'autres lieux de diocèse. Et je veux nommer en particulier Don Julio Diegues, qui fut le supérieur du séminaire Sades Sapientiae à Rome et par conséquent le supérieur de Maxime et de Vincent-Marie. Et aussi Don Louis Clavel, recteur émérite de l'Université pontificale de la Sainte-Croix, où nos séminaristes, diacres et prêtres étudient à Rome. Chers fils, j'espère que vous avez bien écouté et bien médité les textes de la parole de Dieu qui viennent d'être proclamés. En cette solennité prolongée des saints apôtres Pierre et Paul, car en les entendant, vous auriez bien des raisons d'être effrayés, tant le récit qui nous est fait du sort qui leur a été réservé est peu enviable. Écoutons plutôt. À cette époque, écrit saint Luc dans les Actes des Apôtres, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. Et saint Paul, à l'heure de sa captivité, qui écrit en confidence à Timothée, « Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Tous m'ont abandonné. » Par ailleurs, on sait que la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, qui vient d'être proclamé dans l'Évangile, fut immédiatement suivi de la première annonce par Jésus de sa passion et de sa mort sur la croix, qui impressionna si profondément les disciples de la première heure. Il est significatif en effet que ce soit sous le signe du martyr des saints apôtres Pierre et Paul, que par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit, vous soyez aujourd'hui ordonnés, précisément pour devenir prêtres à la manière des apôtres. Et ces paroles que je prononcerai au moment de la tradition du calice et de la patène, ce rite complémentaire qui dit le cœur même de votre participation au sacerdoce ministériel ou hiérarchique du Christ, seront à jamais gravés dans vos cœurs. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. C'est le programme de votre vie. Quelle que soit la forme que prendra la croix dans votre ministère, mais à l'heure où vous serez confronté à l'incompréhension, l'abandon, le rejet, voire la persécution promise par Jésus à ses disciples et à ses apôtres, pourvu que ce soit comme chrétien et non comme malfaiteur ou comme agitateur, comme le dit encore saint Pierre, vous puiserez assurément votre confiance dans ces mots du psalmiste que nous avons médités, c'était en basque, mais vous aviez la lecture en français. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Il le sauve de toutes ses angoisses. N'est-ce pas ce que Pierre a lui-même expérimenté dans sa prison, quand il dit « Vraiment, je me rends compte que le Seigneur a envoyé son ange » et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode. Et saint Paul, si tous m'ont abandonné, le Seigneur, lui, m'a assisté. J'ai été arraché à la gueule du lion, le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. À travers l'imposition de mes mains, et c'est une promesse pour vous, c'est le Seigneur lui-même qui vous prendra dans sa main. Et personne, dit encore Jésus, ne pourra vous arracher de sa main. De même, en manifestant de manière si protectrice leur fraternité sacerdotale par la même imposition des mains, les prêtres qui vous entourent s'engageront aussi à vous apporter en toutes circonstances leur soutien fraternel. C'est cela, n'est-ce pas, chers frères et sœurs, le presbytérium, la fraternité des prêtres dans un diocèse. Et de même que l'Église priait pour lui avec insistance, tandis que Pierre était détenu dans sa prison, l'Église du ciel et de la terre vont maintenant se coaliser pour intercéder en votre faveur. Dans quelques instants, en effet, alors que par le geste si émouvant de la prostration, vous exprimerez votre ferme propos d'être tout à Dieu, sans retard, sans réserve, sans retour, selon la belle expression de saint Michel Garicoïts. Nous chanterons la litanie des saints. Vous vous souviendrez alors de ces versets de l'Épître aux Hébreux. Ainsi donc, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier le péché qui nous entrave si bien et qui nous plaque au sol. Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus qui est à l'origine et au terme de notre foi. Et vous, chers frères et sœurs, qui êtes si nombreux ce matin pour entourer ces futurs prêtres ou qui nous rejoignez par les ondes de Radio Lapourdie et de Radio Présence, vous, leurs parents, que je salue avec une particulière affection, pleine de reconnaissance pour le don que vous faites de vos fils au Seigneur pour le service de son Église et en particulier de son Église de Bayonne, Lescar et Oloron. Vous, leurs amis, vous, les paroissiens et fidèles de notre diocèse, avez-vous conscience qu'en chantant ces litanies de tout votre cœur avec ferveur, vous vous engagerez aussi à prier pour eux avec insistance. Ils savent, et tous les prêtres avec eux, avoir besoin de la prière de l'Église pour assumer les tâches et affronter les difficultés du ministère, pour prendre leur part aux souffrances liées à l'annonce de l'Évangile, comme le dit encore saint Paul. Cher fils, l'Évangile qui vient d'être proclamé vous rappelle quelle sera votre première et fondamentale mission, celle de professer la foi. Le pape, les évêques en communion avec lui et les coopérateurs que le Seigneur leur donne à travers vous n'ont pas d'autre mission plus pressante que de professer la foi de l'Église, jusqu'au martyr s'il le faut, à l'exemple des saints apôtres Pierre et Paul. Il me plaît de faire mémoire aujourd'hui, précisément ce 30 juin 2018, du 50e anniversaire du célèbre credo du peuple de Dieu, que le bienheureux pape Paul VI proclama solennellement sur la place Saint-Pierre le 30 juin 1968, en conclusion de l'année de la foi qu'il avait inaugurée le 29 juin 1967, précisément pour commémorer le 1900e anniversaire du martyr de Pierre et Paul. Dans ces années post-conciliaires, on sait combien le pape Paul VI fut profondément préoccupé de voir de nombreux catholiques se laisser entraîner par le vent de contestation qui agitait les esprits. jusqu'à remettre en cause bon nombre de certitudes et ébranler la foi du peuple chrétien. Voilà pourquoi il voulut redire solennellement la profession de foi de Pierre, explicitée par le grand credo de Nicée, qu'il développa, enrichi par des siècles de tradition, avec une précision remarquable. Pour affermir ses frères dans la foi, il voulut proclamer la foi de l'Église, qui ne repose pas sur les opinions subjectives des hommes, tellement approximatives, voire erronées, fondées dans la seule observation des sens ou les conjectures de la raison, mais bien qui repose sur le témoignage que Dieu lui-même a déposé dans nos cœurs par la grâce de l'Esprit-Saint et qui nous permet de dire à 2000 ans de distance « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Allez, chers frères et sœurs, nous allons le dire tous ensemble, bien fort. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Je ne vous ai pas entendu. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et on sait la réponse de Jésus à Pierre. « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » C'est-à-dire, commente saint Léon le Grand dans une célèbre homélie pour l'anniversaire de son ordination, « Heureux es-tu, parce que c'est mon Père qui te l'a enseigné. L'opinion de la terre ne t'a pas égaré, mais c'est une inspiration céleste qui t'a instruit. » Autrement dit, ne vous laissez pas égarer par les opinions des hommes, si avides de changements et de nouveautés. Ou comme le dirait encore saint Paul, ne vous modelez pas sur le monde présent. Laissez-vous quotidiennement instruire par le Père, par la fréquentation assidue de sa parole. Chers fils, soyez d'abord et avant tout des hommes de foi. Soyez des hommes de ce credo du peuple de Dieu que je vous invite aujourd'hui à faire vôtre. Vous y trouverez le désenveloppement du credo de Nicée, celui pour qui des générations de disciples du Christ ont donné leur vie, usque ad sanguinis effusionem, jusqu'à l'effusion du sang par le martyr. Soyez prêts, vous aussi, à donner votre vie pour ce credo, accueilli et transmis avec une exactitude scrupuleuse, qui n'ira en effet qu'à 50 ans de distance. La foi connaît encore une véritable éclipse dans le cœur de nombreux fidèles. Qui contestera que nous avons bien de la peine à la transmettre aux générations d'aujourd'hui dans toute son intégralité et son authenticité salutaire? Soyez donc fermes dans la foi. Veillez fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres, comme vous le direz dans le canon romain. C'est le grand service que l'Église et le monde sont en droit d'attendre de vous chaque soir après le labeur du jour et surtout au soir de votre vie, puissiez-vous dire avec saint Paul, « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Il est une vérité de la foi que vous aurez à professer de manière particulièrement attentive. Elle sera même au cœur de votre vie et de votre ministère. C'est celle qui concerne la très sainte Eucharistie. C'est devant l'annonce déroutante par Jésus du mystère de l'Eucharistie dans son fameux discours du pain de vie qui scandalisa tant les Juifs et entraîna la défection de si nombreux disciples que Pierre prononça sa deuxième grande profession de foi. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Je vous invite à le répéter après moi, ensemble. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Encore une fois, Seigneur, à qui irions-nous ? Je ne vous entends pas. Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans le mystère de l'Eucharistie, mystère de foi par excellence, mysterium fidei, vous prononcerez chaque jour les paroles qui donnent la vie éternelle. Là encore, le bienheureux Paul VI n'attendit pas la clôture du Concile Vatican II pour publier sa lettre encyclique Mysterium Fidei du 3 septembre 1965 sur la doctrine et le culte de l'Eucharistie. Au début de sa lettre, il écrit « Parmi ceux qui parlent ou écrivent sur ce mystère très saint, il en est qui répandent au sujet des messes célébrées en particulier, du dogme de la transsubstantiation et du culte eucharistique, des opinions qui troublent les âmes des fidèles et jettent une grande confusion dans leurs esprits, touchant les vérités de la foi. Qui ne verrait l'actualité de telles paroles pour aujourd'hui ? Cher fils, vous allez recevoir la grâce insigne de célébrer l'Eucharistie. In persona Christi. Dans la personne même du Christ, vous lui prêterez vos lèvres et vos mains pour prononcer avec la même efficacité que lui les paroles sublimes de la dernière scène. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est le calice de mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ce sont précisément les paroles de la vie éternelle. Par votre ars celebrandi, c'est-à-dire votre manière de célébrer, empreinte de ferveur et d'obéissance aux règles liturgiques, de noble simplicité et de beauté, sans jamais céder à la banalité ni à la vulgarité, c'est-à-dire sans jamais aplatir le mystère, vous renouvellerez profondément la foi eucharistique des fidèles qui vous seront confiés. Parce que la liturgie en tant qu'œuvre du Christ et de son corps, qui est l'Église, est l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église ne peut atteindre l'efficacité au même titre et au même degré, comme nous l'a rappelé le dernier concile. Vous ne préférerez jamais rien à la célébration de la messe dans votre ministère. Elle devra même être le moment le plus important de chacune de vos journées. Cela ne devra pas pour autant faire de vous des hommes de la sacristie, enfermés dans le culte. La liturgie de la messe n'est pas un événement hors sol qui pourrait être déconnecté de la vie des hommes qu'elle est appelée précisément à transformer en profondeur. On pourrait même dire à transsubstantier ou encore à transfigurer. Parce que la liturgie est le sommet de la vie et de la mission de l'Église, vous apporterez à la messe, à chaque messe, tout ce qui fait la vie des hommes et des femmes qui vous seront confiés, qui seront confiés à votre charité pastorale, leurs joies et leurs espérances, leurs angoisses et leurs tristesses, le pain et le vin que vous recevrez, fruits de la terre, de la vigne et du travail des hommes, constitue en effet l'offrande du peuple saint que vous aurez à présenter au Seigneur dans le sacrifice eucharistique que les fidèles offriront à Dieu eux-mêmes précisément par vos mains. C'est dire combien vous êtes appelés à être proches des hommes et des femmes dont vous serez les pasteurs. Vous êtes envoyés pour leur manifester la sollicitude d'un Dieu qui n'est pas éloigné ni étranger à la vie des hommes comme l'est le Dieu des païens, mais d'un Dieu qui est entré dans notre histoire, qui s'est fait tout proche de nous en Jésus-Christ, qui nous a libérés du péché, qui nous a ouvert la porte de la foi, qui procure la vie éternelle. Comme l'ange envoyé par Dieu à Pierre dans sa prison, se préoccupait des moindres détails. « Mets ta ceinture, chausse tes sandales, enveloppe-toi de ton manteau. » Vous aurez à cœur de rejoindre les hommes et les femmes de votre temps avec la même sollicitude concrète, à l'écoute de leurs questions, attentif à leurs préoccupations, partageant leur joie, compatissant à leurs souffrances, en vous faisant tout à tous, grâce au charisme du célibat perpétuel que vous cultiverez jalousement. Vous vous souviendrez sans cesse à l'autel des besoins des hommes et des femmes qui vous seront confiés, les vivants comme les défunts. Parce que la liturgie est encore la source de la vie et de la mission de l'Église. Vous puiserez dans votre intimité avec Jésus, en particulier dans le cœur à cœur de l'adoration eucharistique, la force de votre générosité à servir. C'est la troisième profession de foi de Pierre, sa triple profession d'amour qui lui valut de recevoir sa mission de berger des agneaux et des brebis du Seigneur. « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, allez, répétez-le-moi. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime, encore une fois. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Dans une société marquée par la culture du déchet, après avoir reconnu et adoré longuement Jésus humilié, agneau comme immolé dans des espèces du pain et du vin consacrés, vous apprendrez chaque jour à le reconnaître et à le servir, spécialement dans les plus petits, les plus fragiles et les plus vulnérables, les enfants à naître, les enfants soumis à l'égoïsme destructeur des adultes, les hommes et les femmes blessés par la vie, les malades et les vieillards voués à l'inutilité. Vous qui avez la grâce d'appartenir à des familles nombreuses où l'on est ouvert à la vie, vous prendrez un soin particulier de la famille si fragilisée et agressée aujourd'hui, parfois même par les lois de la République, que vous refuserez énergiquement de mettre au-dessus de la loi de Dieu, inscrite au plus intime de la conscience et dont vous rappellerez à temps et à contre-temps les injonctions salutaires. Prenez encore exemple sur le bienheureux Paul VI, dans sa lettre encyclique « Humanae Vitae », dont nous célébrerons le 25 juillet prochain le 50e anniversaire. Il n'eut pas peur d'élever la voix à contre-courant de la pensée dominante et même de s'exposer au refus exprimé par de si nombreux fils de l'Église, pasteurs et même théologiens, à voir l'évolution de la société, marquée toujours davantage par un individualisme libéral-libertaire. Il ne fait pas de doute à 50 ans de distance que cette encyclique était prophétique. En s'opposant aux sages dispositions du Créateur par son propre arbitraire, au nom d'un progrès technique dont il est devenu l'esclave, l'homme prétendument augmenté a précipité l'humanité sur la voie sans issue d'un humanisme inhumain. Soyez particulièrement attentifs aux jeunes qui se préparent au mariage, aux époux, aux familles. C'est un des grands défis pastoraux de l'Église d'aujourd'hui. Écoutez encore ce sage conseil du bienheureux Paul VI. Ne diminuez en rien la salutaire doctrine du Christ est une forme éminente de charité envers les âmes. Mais cela doit toujours être accompagné de la patience et de la bonté, dont le Seigneur lui-même a donné l'exemple en traitant avec les hommes. Venu non pour juger, mais pour sauver, il fut certes intransigeant avec le mal, mais miséricordieux envers les personnes. Au milieu de leurs difficultés que les époux retrouvent toujours dans la parole et dans le cœur du prêtre, l'écho de la voix et de l'amour du Rédempteur. C'est dans le sacrement de réconciliation dont vous recevrez aujourd'hui le pouvoir sacré que vous exercerez le mieux ce grand mystère de compassion envers les âmes. En rendant grâce à Dieu pour vos familles qui ont été le terreau privilégié, où votre vocation a été semée par le Seigneur, où elle a germé jusqu'à être confirmée solennellement, publiquement, aujourd'hui, par l'Église. Aidez les jeunes qui seront confiés à votre ministère à discerner le projet de Dieu sur leur vie. Montrez-leur par votre témoignage convaincant la joie qu'il y a à se donner tout entier au Seigneur pour le service de ses frères. Enfin, en renouvelant en ce jour de votre ordination, votre consécration à la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, ayez à cœur de lui confier vos résistances et vos combats, vos peurs et même vos péchés. Abandonnez-lui la garde de votre vie intérieure et de votre célibat sacré. Faites d'elle votre meilleur allié dans la recherche passionnée du salut des âmes. Amen.